On n'arrête pas l'écho avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
C'est sûr, c'est bien elle. Pas besoin de test ADN. Appellation d'origine contrôlée. Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Comme le poulet de la ville que vous savez. Bonjour Bernadette Chamonaz. Bonjour à tous.
Depuis des années, au quotidien et au plus près du terrain.
Thierry Bolloré.
J'accompagne les femmes et les hommes de Renault.
22 novembre 2018.
Renault bénéficiera ces prochains mois d'une actualité forte et très positive avec la sortie de plusieurs nouveaux modèles en 2019. Vous pouvez compter sur mon engagement total.
Engagement total. Mais bref, ça c'était il y a moins d'un an. Voilà le numéro 2 de Renault en novembre 2018. Thierry Bolloré propulsé sur le YouTube de l'entreprise. Message rassurant, il y a un homme au volant, même si l'impérateur n'est pas là. Carlos Ghosn a été arrêté au Japon 3 jours plus tôt. Octobre 2019, hier, voilà Thierry Bolloré débarqué. Alors rien de personnel, hein, dit son nouveau boss, mais le bras de fer a été rude. Bolloré n'a pas voulu démissionner, d'où la révocation avec effet immédiat. Et chez les dirigeants, ça n'est pas si fréquent. Que lui reproche-t-on? Officiellement, les derniers résultats financiers. Officieusement, son plus grand défaut, c'est d'être le dauphin de Carlos. Depuis la rentrée, le grand ménage a commencé. D'abord chez Nissan, maintenant chez Renault. On peut appeler ça une purge, on peut appeler ça aussi une remise à zéro avant redémarrage. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. L'alliance Renault-Nissan patine depuis 11 mois. Elle a frôlé le divorce. Maintenant, oui, elle doit redémarrer. Et Carlos Ghosn, alors? Assigné à résidence, il paraît qu'à Tokyo, on le croise sans toujours le reconnaître. Survêtement noir, lunettes noires, casquette noire, il circulerait à vélo.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Un petit détail glané dans le livre de nos confrères du Figaro, Bertie Bayard, Emmanuel Egloff. Ça s'appelle Le Piège, enquête sur la chute de Carlos Ghosn et c'est aux éditions Kero. Bienvenue, c'est le Maguéco. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Coy Nguyen à la réalisation, Valentin Pérez à la production et Louis Audebert à la technique ce matin. Et autour de moi, j'ai bien sûr un lecteur fou, Emmanuel Le Chypre. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
La librairie de l'écho sur BFM Business, c'est vous.
Merci.
Et bonjour Vincent Grimaud,
bonjour.
D'Alternatives Économiques. Vous avez vu Emmanuel, il a le chavassiège, version chavagneux de la Batmobile.
Oui, mais est-ce qu'on peut dire quand même qu'aujourd'hui dans ce studio, nous avons des nouveaux sièges flambant neufs,
ouais,
qui font que ce studio rouge et blanc est absolument magnifique.
C'est vrai que c'est magnifique. Est-ce que ça va nous rendre plus performants?
On a toutes les conditions qui sont réunies pour.
Exactement.
En tout cas. Il n'y a pas d'excuses.
Votre débat ce matin, on regarde les suppressions de postes à Belfort, chez General Electric, l'usine Michelin qui ferme à La Roche-sur-Yon. On avait cru à une embellie ces deux dernières années. Est-ce que la photo est en train de s'assombrir? On se retrouve dans quelques instants pour le bilan de santé de l'industrie française. Brexit, J-19 jours. Enfin, peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est le sommet européen de jeudi et vendredi prochain. La pression qui monte. En France, les entreprises sont-elles prêtes? Vous entendrez le reportage de Caroline Pomès. Et puis, on parlera du Brexit et de tous les autres défis majeurs qui attendent les constructeurs français d'automobiles. Encore une fois, des questions sur les usines. Et ce sera avec le président du comité des constructeurs français d'automobiles, Christian Peugeot, avec nous vers 9h45. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Alors cette semaine, Sandrine, votre question, c'est la question.
Oui, faut-il travailler moins pour faire plaisir à ses enfants et à son mari éventuellement?
Éventuellement. À tout à l'heure Sandrine, la réponse c'est juste avant 10h. Et tout de suite, en France, les usines, est-ce qu'elles ont de l'avenir?
Octobre 2019.
Prend tout de suite la direction de La Roche-sur-Yon où Michelin va fermer son usine de pneus pour camions.
L'annonce est tombée et 619 salariés sont abasourdis.
En 20 ou 30 ans,
Thierry Veil,
l'industrie a perdu un tiers de ses emplois.
Professeur à Mines Paris Tech.
Il faut tout de même savoir que depuis 2 ans, ça va un peu moins mal. Pourquoi? Parce que l'État était tout de même pas resté totalement inactif. Il y avait eu le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Il y avait eu le pacte pour l'industrie. C'est très peu de choses, ça n'est pas très robuste, il faut aller beaucoup plus loin.
Au cours de ces trois dernières années, on a ouvert plus d'usines en France que l'on en a fermé. Et depuis le début de l'année, c'est fini. La tendance s'est de nouveau inversée.
La belle histoire, c'est celle de la mondialisation heureuse.
Pierre Vermeiren.
Et puis l'histoire un peu cachée.
Historien.
C'est la transformation du modèle industriel et productif en général, avec bien sûr des conséquences sociales.
On manque quand même singulièrement de vision industrielle en France.
Marie-Claire Caïto.
Et on manque de politique industrielle au niveau européen.
Responsable confédérale CGT pour l'industrie.
Mais je voulais redonner un exemple, c'est quand même l'affaire de la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric. Celui qui a donné le feu vert à l'époque, c'était le ministre de l'économie qui est aujourd'hui le président de la République. Et cette vente a conduit à faire en sorte que tous les brevets dans l'énergie sont partis à General Electric et qu'aujourd'hui, la turbine des centrales nucléaires et des sous-marins nucléaires sont maintenant faits par les Américains. C'est pas comme ça qu'on va réindustrialiser la France.
Les syndicats de General Electric viennent donc d'assigner l'État français en justice. Il lui reproche de ne pas avoir fait respecter les accords signés en 2014 avec le géant américain.
Non seulement General Electric n'a pas créé les postes promis, mais en plus il a annoncé qu'il allait supprimer 800 emplois à Belfort dans son usine de turbines à gaz.
Produire en France, il faut le dire, c'est un tabou.
Bruno Grandjean.
Mais aujourd'hui, notre industrie, elle est essentiellement offshore.
Président de l'Alliance de l'Industrie du Futur.
Il est temps de revenir à une politique de l'offre, de la compétitivité. Mmh. On a comme ça un impôt sur la valeur ajoutée qui est une aberration économique.
Vous avez raison, 70 milliards d'euros d'impôts de production, on veut les baisser.
Agnès Pannier-Runacher.
En tout état de cause, il faut y aller.
Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie.
On va tracer une trajectoire, faire des propositions au président de la République et au Premier ministre. Et il est très clair qu'il faut être capable de baisser les impôts de production. Et qu'ils ne soient pas 2 milliards d'euros, mais qu'ils soient une somme importante.
On va décortiquer tout ça. Vincent Grimaud. Vous voulez bien nous faire la photo de l'industrie, la photo panoramique ?
Oui, alors faire la photo, c'est d'abord faire le film, évidemment, puisqu'on a perdu 3 millions d'emplois industriels en 40 ans environ. Donc, c'est sûr qu'on sort de 40 ans de délocalisation massive, de perte de parts de marché et d'un solde commercial avec nos voisins qui reste dégradé, notamment, et c'est assez nouveau, dans l'automobile, dans la métallurgie, le plastique, les machines-outils ou encore l'électroménager. Donc, si on regarde ça, on se dit, effectivement, c'est foutu. Mais il y a quand même beaucoup de signes intéressants. Depuis deux ans, on ne détruit plus d'emplois industriels. En tout cas, on en crée plus qu'on en détruit. Le solde est de nouveau positif. Alors, c'est en bonne partie grâce à nos points forts habituels, agroalimentaire, aéronautique, parfum, chimie. Mais ce qui est plus nouveau, c'est qu'il y a des secteurs qui se reprennent, comme le textile ou l'électronique. L'Institut Trendéo, qui suit ça de très près, regarde secteur par secteur et nous montre que quasiment tous les secteurs vont mieux. Notamment en termes d'emploi. Le souci, c'est la valeur ajoutée et donc la rentabilité qui, elle, n'est pas encore revenue à des niveaux très élevés, mais quand même, il y a du mieux.
Donc ce que nous dit Vincent, là, déjà, première chose, Emmanuel Le Chip, c'est la fin de la mondialisation violente. En tout cas, ça se serait arrêté il y a 3 ans.
Alors, c'est vrai que la France, elle a quand même une spécificité, c'est que c'est le pays européen qui a le plus souffert en termes d'industrie. Il y a une vraie spécificité française. C'était 18% de notre PIB il y a 20 ans, c'est tombé à 10%. Il n'y a aucun pays européen dont l'industrie a autant souffert. Donc, il faut bien s'interroger sur les raisons françaises. On ne produit toujours pas plus qu'en 1996 aujourd'hui en France. Alors c'est vrai, Vincent l'a dit, il y a des signes positifs, hein, même les investissements étrangers qui reviennent, notamment. Et alors la question qui est intéressante, c'est est-ce que c'est lié à des facteurs spécifiquement français ou bien est-ce qu'il y a un environnement ? Et avant d'attaquer les facteurs spécifiquement français, il y a quand même un environnement qui a considérablement changé, qui est la fin de cette mondialisation, de ces délocalisations, de cette internationalisation des processus de production massifs qu'on a connus dans les années 90, à la fin des années 90 et 2000. Ce qui est très intéressant, par exemple, c'est de voir que la part de la production mondiale aujourd'hui qui voyage diminue. Hein, donc il y a une forme de relocalisation.
Les chaînes de production sont en train de se
réorganiser. Les chaînes de production sont effectivement en train de se réorganiser. Vous avez par exemple plein de raisons qui expliquent ça. Vous avez le fait que le coût du travail, en fait, l'écart n'est plus si important avec beaucoup de pays émergents. Hein. Il y a 20 ans, le coût du travail c'était 40 fois plus faible en Chine qu'en France. Maintenant, vous avez presque des coûts parfois équivalents. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont aperçues que délocaliser, ça avait un coût considérable en matière de logistique, de réactivité, et ça, c'est aussi quelque chose qui a considérablement changé. Dans l'économie de l'intelligence, vous ne délocalisez plus, vous avez besoin des centres de recherche près des usines, il y a des problèmes de propriété intellectuelle aussi, et puis il y a des entreprises qui se sont aperçues qu'il y avait une vulnérabilité très grande. Rappelez-vous, au moment de Fukushima, on s'est aperçu que toutes les usines automobiles du monde entier étaient arrêtées parce qu'il y avait des pièces qui n'étaient fabriquées que là. Même chose quand il y a eu des inondations en Thaïlande. Donc il y a un contexte mondial qui fait qu'effectivement il y a une tendance à la relocalisation des usines dans cette économie en plus digitale, où on a des petites usines qui fabriquent des petites chaînes de production, où on a besoin d'avoir les centres de production plus près des centres de consommation.
Vincent Grimaud, vous, je sais que vous avez justement enquêté dans les campagnes. Là, Emmanuel nous dit qu'il est quelque part optimiste, qu'il y a de l'industrie qui revient ou qui s'épanouit. Est-ce que vous l'avez constaté, vous ?
Oui, quand on se balade dans les campagnes, on le voit très bien. Et d'ailleurs, l'industrie est surreprésentée dans les campagnes et les petites villes. Alors, il y a des belles réussites locales avec sur une filière particulière, par exemple, Yssingeaux en Haute-Loire sur le plastique. Mais vous avez aussi des réussites géographiques avec pas de spécialité particulière. Vous allez aux Herbiers, vous avez 40% donc ça c'est en Vendée, vous avez 40% d'emplois dans l'industrie et il n'y a pas de force particulière. Alors c'est pas
alors
la seule.
Alors à quoi ça tient,
ouais,
quoi
alors ça tient, alors ça tient déjà à une montée en gamme, clairement. On assume qu'on est plus cher, mais c'est pas grave, on va le justifier par une qualité qui est meilleure. Donc ça c'est vrai pour le textile, c'est vrai pour l'agroalimentaire, mais c'est vrai pour globalement la plupart des secteurs. On a un capital qui est resté familial, on se transmet l'usine de père en fils ou de père à salarié modèle. Mais on va essayer d'éviter de vendre. Je suis allé par exemple chez Concept Alu, qui est une entreprise qui fait des vérandas. Et eux, ils sont, comme ils savent qu'ils vont garder leur capital, ils se projettent très loin. Là, ils sont en train de construire une usine et elle est surdimensionnée. Elle répond pas à leurs besoins actuels, mais ils pensent qu'elle va répondre à leurs besoins en 2030. Donc ils se projettent sur 10 ans. Donc, si vous ajoutez à ça qu'il y a moins de turnover des salariés dans les campagnes, si vous ajoutez à ça que tout le monde travaille en réseau, il y a un attachement au territoire qui est fort, eh ben, vous avez en fait un écosystème qui se crée, alors qui n'est pas très impressionnant, c'est pas Google évidemment, mais c'est des petites innovations par-ci par-là, et ça monte en gamme, et au final ça fait qu'aux Herbiers, on a 40% d'emplois dans l'industrie.
Et d'accord, qu'on a une empreinte industrielle forte. Donc Emmanuel, vous nous dites que vous êtes optimiste, qu'il y a tout un environnement extérieur, une chaîne de production qui s'est réorganisée. Est-ce que la France a des atouts particulier,
Oui, je crois qu'il y a des atouts auxquels on pense pas souvent. Alors effectivement, il y a ce que j'appellerais les atouts traditionnels qu'on voit apparaître dans l'amélioration de notre attractivité, par exemple dans tous les classements internationaux. Il y a le cabinet Eight Advisory qui a fait un exercice assez intéressant qui compile tous les classements internationaux sur tous les domaines pour voir comment évolue la position de la France. Et c'est vrai que on a progressé ces dernières années. Si vous prenez le classement Intercorné, on est même dans le top 5 du classement mondial de l'attractivité. Alors c'est lié à notre politique économique qui va quand même dans le sens d'une plus grande compétitivité. Emmanuel Macron, il essaye de gommer certains des handicaps français à travers sa politique fiscale, sa politique sur le marché du travail. Il y a un environnement international aussi qui est favorable à la France, qui a envie d'aller investir aujourd'hui au Royaume-Uni, par exemple. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a des explications qu'on donne pas souvent. La première...
Alors, allez-y.
Alors, la technologie, on l'a dit. Les nouvelles usines, c'est vrai. La production aujourd'hui, elle va se concentrer sur des plateformes qui sont plutôt régionales. Local. Il y a des raisons sociologiques qu'on n'évoque pas souvent. Par exemple, songez que les jeunes diplômés aujourd'hui des écoles d'ingénieurs, ils ont fini un peu d'aller faire les guignols dans la finance comme à la fin des années 80, ils ont envie de revenir dans l'industrie, c'est ce que montrent les statistiques des sorties d'école, ils ont envie de retourner dans l'industrie, monter des start-up, etc. Il y a un autre phénomène qui est démographique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez tout un tas de vieux patrons dans l'industrie qui sont des patrons qui n'ont pas su, pas pu ou pas voulu faire grandir leur boîte, qui vont les transmettre à des jeunes qui vont faire redécoller en partie ces boîtes. Et puis un point très important qu'on souligne aussi assez peu, c'est le renouvellement des élus locaux lors des dernières élections municipales, qui a été un renouvellement comme on n'en a pas connu depuis la fin des années 70, les élections municipales de 77.
Quel rapport avec l'industrie ?
Eh ben, je vais vous dire le rapport, c'est que tous ces nouveaux maires, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qu'ils sont tous jeunes, ils sont tous pro-business à fond. Et aujourd'hui, quand vous allez en province, eh ben, vous trouvez plein de villes, allez dans des villes qui étaient avant un peu léthargiques sur le plan industriel, vous avez des nouveaux maires qui sont hyper motivés pour faire venir des entreprises. Et ça, je peux vous dire que ça change beaucoup de choses.
Alors, je vous entends et je me dis, ok, là, l'actualité, c'est quand même une usine qui ferme, des suppressions d'emplois chez General Electric, Vincent Grimaud, tout cet optimisme, ça fait du bien ce matin. Mais en même temps, on a des mauvaises nouvelles. Alors, comment ça s'explique?
Oui, on n'est pas tiré d'affaire. Alors, quand on regarde l'actu, il faut toujours être prudent parce que on voit trois usines qui ferment, on se dit, on essaye d'en tirer une conclusion générale, alors qu'il y a des problèmes très sectoriels. Le nucléaire n'est pas General Electric, etc.
Là, vous pensez, oui, au déboire de l'EPR,
oui. Oui, par exemple, oui. Ouais. Donc, effectivement, il faut essayer de prendre un peu de recul. Maintenant, si on prend du recul, évidemment, oui, on a des usines qui restent vieillissantes et moins robotisées que nos voisins. On est en retard sur la robotisation. On a effectivement des chefs d'entreprise qui vieillissent. On a 60 000 entreprises qui se transmettent chaque année et ce rythme va augmenter. On a un chef d'entreprise sur 5 qui a plus de 60 ans et on sait que plus un chef d'entreprise vieillit, moins il investit, c'est logique. Et donc là, on a l'enjeu de la transmission qui est compliqué. On reste pas tellement bien positionné. On monte en gamme, mais ça prend du temps. Évidemment, ça va pas se faire en 5 ans. Et puis, après, on a un effet. On est tombé très bas. Et donc, à un moment, quand il n'y a plus d'usine, eh ben, il n'y a plus de centre de formation pour les ouvriers. C'est difficile de trouver des salariés. Et donc, en fait, il y a un espèce de cercle vicieux qui s'enclenche. Et réenclencher le cercle vertueux, c'est difficile. En revanche, quand ça marche, eh bien, tout devient plus facile. Et donc, en fait, il faut que l'appareil productif retrouve un certain volume pour qu'il entraîne, puisque l'industrie a des forts effets d'entraînement. Donc, le petit changement à faire, le changement de dynamique est compliqué, mais ensuite, on peut espérer que ça ira mieux.
Alors,
et puis, dernier problème, le problème de l'investissement. Puisque France Stratégie et la Fabrique de l'Industrie ont montré l'année dernière qu'on investit beaucoup plus que l'Allemagne, par exemple, dans l'industrie manufacturière,
oui,
ce qui paraît fou.
Ouais.
Mais en gros, on investit dans les bases de données, dans les logiciels, dans la R&D, bref, ce qu'on appelle les actifs immatériels. Et on n'investit pas concrètement dans les usines, on préfère les laisser partir. Et donc, on a gardé les cerveaux industriels, mais on a laissé partir les bras industriels, ce qui fait qu'on est une sorte de pays industriel sans usine, finalement.
Mmh. Emmanuel Lechypre.
Les cas récents, c'est quand même, on a là pour le coup les trois cas emblématiques de la diversité des problèmes de l'industrie française. Alors le cas de l'EPR par exemple, cette semaine, ça c'est l'illustration du fiasco français parfait. Hein, c'est-à-dire que l'EPR, c'est pas une véritable révolution technologique, c'est juste un réacteur qui est trop compliqué, qui est trop cher, qui est trop gros.
Apparemment, il y a un problème de compétences aussi en France.
On ne sait plus construire des centrales nucléaires en France. Voilà, c'est ça le sujet. Donc ça c'est vraiment le fiasco français, l'espèce d'ego surdimensionné de nos ingénieurs qui font un produit qui ne se vend pas, qui est trop compliqué à fabriquer. Voyez le Concorde, voyez la 380, on est un peu dans la même logique. Après, vous avez Michelin concurrencé par les pneus asiatiques, et notamment les pneus chinois. Là, vous avez l'exemple d'un marché sur lequel, quand même, on n'a pas été très vigilant, et où on aurait pu mieux défendre les intérêts de nos producteurs face à des concurrents.
Qui est
la Commission européenne, par exemple. Songez que les pneus chinois, ils sont 30% moins chers que les pneus de Michelin, par exemple, ou de Continental, l'allemand, sauf qu'ils sont de beaucoup moins bonne qualité. Donc, par exemple, imposer des tests sur les pneus un peu usagés et pas sur les pneus neufs, ça permettrait quand même de remettre un peu les pendules à l'heure. Et là-dessus, on sait pas trop se défendre. Ça, c'est aussi une des tares de l'économie française. Et puis
ça,
après,
c'est une des grandes fragilités en fait de notre industrie.
Sûr.
Ça fait partie des raisons de fond.
Absolument, absolument. Et puis vous avez le cas de la vie économique, c'est-à-dire en gros la révolution technologique qui malmène certains secteurs et notamment un secteur comme l'automobile. Hein. Il faut voir qu'il y a un chambardement des usines automobiles qui est en train de se préparer en France avec des usines qui vont partir à l'étranger. Ça, aujourd'hui, vous êtes dans une industrie qui est en plein bouleversement, en pleine révolution. Et vous ne pouvez pas, lutter contre ça. Donc après, il y a toujours le fameux proverbe, il y a l'arbre qui tombe qui fait du bruit et la forêt qui pousse qui n'en fait pas.
C'est beau ce que vous dites.
C'est chinois et c'est le titre d'un livre de Nicolas Bouzou.
La question de fin, parce que vous m'en avez pas du tout parlé, il y a ce mot de compétitivité, on n'est pas assez compétitif, vous nous avez montré divers facteurs, qu'on a encore des industries vieillissantes, etc. La compétitivité, ça tient à quoi? Est-ce que c'est un problème de coût du travail? Est-ce que c'est un problème d'impôt? Est-ce qu'il y a quel levier il faudrait jouer pour améliorer la compétitivité, Vincent?
C'est un peu tout ça en même temps. Là où il faut faire attention, c'est que on va pas lutter contre la Chine en baissant de 3 ou 4% le coût du travail, les salaires par exemple ou les cotisations sociales. Une étude de la Banque de France vient de montrer qu'en fait, on perd de la compétitivité prix, donc c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à lutter sur les prix en bonne partie parce qu'on importe de plus en plus de composants chinois et eux-mêmes qui, on l'a dit, sont plus chers à produire puisque la Chine produit pour plus cher. Donc en fait, chaque fois que les voisins avec qui on échange leur coût du travail monte, en fait le nôtre monte aussi puisque les chaînes de valeur sont très intégrées. Et donc on peut pas lutter sur les prix, on peut toujours lutter sur les prix avec l'Allemagne, mais on n'y arrivera jamais avec les Chines. Donc il faut être dans une autre logique. Et du coup, ça pose la question de la politique industrielle de la France, qui est restée quand même assez, on va dire, mauvaise, on pourrait même dire absente. On a une surfocalisation sur les start-up et le numérique, et il est temps de repenser qu'est-ce qu'on peut produire dans ce pays, et on peut produire des choses.
Emmanuel Le Chypre.
La bonne politique industrielle, c'est celle juste qui consiste à permettre aux entreprises, aux innovateurs, etc., de développer leurs idées et de créer leur business dans les meilleures conditions. Donc il y a une priorité absolue, ce que réclament tous les industriels aujourd'hui, c'est la baisse de la fiscalité et notamment cette fameuse suppression des impôts à la production, c'est-à-dire ces impôts qui pèsent sur les entreprises avant même qu'elles aient produit la moindre vis ou le moindre boulon. Et ça, c'est quand même un écart substantiel. Les entreprises françaises, rappelons-le, sont les plus prélevées du monde, 6 à 7 points d'écart de PIB, ça fait 140 milliards d'impôts de prélèvements supplémentaires à leur détriment. C'est 8% de la richesse des entreprises industrielles françaises qu'on prélève par rapport à l'Allemagne. Donc cet argent, elles en ont besoin, les entreprises, pour investir. Donc les impôts à la production, c'est la priorité.
Pour vous, c'est le prochain combat.
Absolu, c'est le prochain combat. Le gouvernement a fait des promesses aux entreprises, on verra s'il les tiendra.
On suivra ça. Merci à vous Vincent Grimaud, Emmanuel Le Chypre, les débatteurs de ce samedi 12 octobre. Et puis Emmanuel, puisque vous avez parlé des usines automobiles, je vous rappelle que dans la prochaine demi-heure, nous avons justement le président du comité des constructeurs français automobiles, Christian Peugeot. Alors ce 12 octobre, la date est importante, hein, parce que vous le savez, nous sommes tous engagés dans un compte à rebours très particulier. La question c'est quand divorçons-nous ? Ce matin, je vous emmène à Bruxelles.
Brexit is like climbing a mountain. We need vigilance, determination and patience.
Voilà, ça c'est le négociateur européen pour le Brexit, Michel Barnier. Le Brexit, dit-il, c'est comme gravir une montagne, il faut de la détermination, de la vigilance et de la patience. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Angélique, vous êtes la correspondante de France Inter à Bruxelles. Alors hier, les 27 ont fait le point sur le Brexit. Ils ont évalué les chances d'un accord. Personne n'y voit vraiment clair, mais on a cru sentir, venant de chez vous Angélique, un micro-souffle d'optimisme.
Oui, c'est ça. En fait, une petite lueur au bout du tunnel, hein, dit un diplomate. Tunnel, en fait, c'est le mot-clé du jour, Alexandra, car les négociateurs britanniques et ceux de l'équipe de Michel Barnier, la Task Force, ont eu comme consigne, eh bien, de s'enfermer tout le week-end pour essayer de trouver un accord de dernière minute après les nouvelles propositions britanniques. Et ici, dans la bulle bruxelloise, on dit donc que l'on a ouvert un tunnel de négociations dont on ne connaît pas encore la date de sortie. Alors, il y aurait un premier rendez-vous pour faire un point, peut-être dimanche soir ou lundi, avec les ambassadeurs des 27 États membres à mobiliser également. Puis, un autre mardi, voire mercredi, veille de ce sommet européen que l'on dit décisif. Et si tout cela durait, Alexandra, ce serait plutôt bon signe. Hein. Cela voudrait dire sans doute qu'il y a du lourd sur la table.
Et on aimerait bien savoir ce que c'est ce lourd. Angélique, savez-vous ce qu'ont proposé concrètement les Britanniques ?
Eh bien non, hein. Moi c'est très motus et bouche cousue dans les ambassades. Moins on en dit, mieux c'est. Patience, hein, a déclaré Michel Barnier, vous venez de le diffuser. Ce qui a fuité, c'est que les Britanniques auraient mis sur la table de nouvelles idées pour éviter ces fameux contrôles douaniers sur l'île d'Irlande, dangereux pour la paix. Le rétablissement d'une frontière entre les deux Irlandes, vous le savez, c'est un chiffon rouge pour les Européens. On ne sait rien de plus à ce stade. Depuis deux jours, il y avait eu des discussions orales. Là, il faut négocier sur des documents précis, écrits, juridiques. Une chose est sûre, hein, on négocie déjà depuis 3 ans. Il y a eu 2 reports. On sait toutes ces péripéties avec Theresa May. L'idée, a priori, ce n'est pas de sortir du chapeau de nouveaux dispositifs sur lesquels on n'aurait pas déjà réfléchi, me confiait hier une source européenne haut placée. On ne va rien inventer. On va mettre, en fait, sous le nez des Britanniques ce qui est juridiquement acceptable côté européen, voir s'ils veulent vraiment un accord. Autant vous dire que ce rebondissement, hein, regardez avec beaucoup de patience ici, mais on ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Et puis on verra sur pièce, hein, très vite, hein, dans les prochains jours, s'il y a vraiment une envie de négocier à Londres ou si c'était du bluff.
Regardez avec beaucoup de patience et vous dites beaucoup de prudence, j'imagine. Angélique Bouin avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous. Allez, prenez votre manteau, mesdames, messieurs, on sort du studio. Nous allons rendre visite à un équipementier automobile à Angoulême. Est-ce que vous voyez la zone industrielle des Agriers ? Est-ce que vous voyez le portail bleu, les ateliers ? On entre. Notre reporter Caroline Pommès est déjà en train de s'équiper.
Donc je vais mettre des codes de sécu.
Alors,
Bonjour, Patrick Scholz, PDG Luxor Lighting. Ici, en fait, cette presse donc fabrique les guides de lumière. Donc, en fait, c'est un cylindre qui va permettre de guider la lumière pour qu'elle éclaire la surface dont on a besoin.
Donc ça, ça part directement au Royaume-Uni.
Voilà. La fréquence, c'est une à deux fois par semaine. Donc, on expédie ça donc chez Faurecia, qui est un équipementier français, un des plus gros, qui va assembler ça dans les panneaux de porte et qui va livrer ensuite Jaguar Land Rover. Ça, ça représente à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va faire 18 millions, donc c'est un peu plus de 10% de l'activité de l'entreprise.
C'est pas rien.
Non, 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 c'est important.
On ne fait pas que des BD à Angoulême. Hein. La PME de Patrick Scholz fête ses 100 ans ce mois-ci. Ses 120 salariés sont spécialistes de la conception et de la fabrication d'équipements lumineux pour les voitures. La moitié de leurs produits est exportée outre-Manche, par exemple, et leurs clients s'appellent là-bas Jaguar et Land Rover. 100 000 entreprises françaises commercent avec le Royaume-Uni. Comme Luxor Lighting, ce sont en majorité des PME. Et dans 19 jours, ces échanges pourraient être bouleversés. S'il n'y a pas d'accord, le Royaume-Uni deviendrait un pays tiers comme un autre. Alors que se passerait-il pour les formalités aux douanes? Y aurait-il une augmentation des taxes? Le hard Brexit, le Brexit sans accord, c'est le saut dans l'inconnu. Est-ce que nos entreprises ont préparé des parachutes? Eh bien, notre patron angoumoisin espère avoir prévu le pire.
Ici, c'est la zone de produits finis. Vous avez les camions, vous voyez, qui sont au fond. Alors, on gère très peu de stock. Hein, on a à peu près un jour de produits finis, pas plus. On est tout en flux tiré dans l'automobile. Il va y avoir, par exemple, dans le cas de la Grande-Bretagne, ben, si on livre deux fois par semaine, en gros, il y a trois jours en tout. Donc, il va y avoir deux jours chez l'équipementier, chez Faurecia. Et il peut y avoir encore peut-être un jour entre Faurecia et Jaguar Land Rover. Un des gros problèmes du Brexit, c'est que si on met deux jours de douane au milieu, on casse tout, ça marche pas. Même en mettant du stock, on va plus pouvoir travailler en flux tiré.
Et pour vous, quelles conséquences?
Je pense que ça va se traduire par des à-coups de production. S'il y a vraiment un Brexit dur, Jaguar Land Rover a constitué des stocks quand même, donc ils vont pouvoir en vivre un petit peu. Après, il y aura des ruptures, donc ils seront obligés de mettre en chômage leurs usines. Hein. Donc nous, ça va nous faire aussi des arrêts. Et après, ça va refaire un à-coup à l'envers, quoi. C'est-à-dire que tout le temps qui a été perdu, hein, il va falloir le rattraper. Et nous, ça va nous poser aussi des problèmes, parce qu'on va s'arrêter, puis on va redémarrer très fort.
C'est ce qui est déjà arrivé.
Alors, c'est déjà arrivé, puisque le Brexit était prévu au mois d'avril de cette année. Tous les constructeurs de Grande-Bretagne avaient prévu 3 semaines d'arrêt pour anticiper les problèmes. Et ça a été très problématique, parce qu'il n'y a pas eu de Brexit. Il n'y a pas eu de problème. Mais par contre, je pense qu'ils n'ont pas voulu reconduire ce qu'ils avaient fait donc au mois d'avril, enfin mars-avril, hein, pour la simple et bonne raison qu'ils ne savent même pas si ça va se faire, quoi. Puisque personne ne sait. Et ils ont voulu anticiper une fois, ils ont beaucoup perdu, ils ne vont pas le faire deux fois, ça serait quand même dramatique.
Est-ce que vous êtes prêt?
On s'est renseigné, on a fait toutes les démarches. De toute façon, on perdra au minimum par an entre 2000 et 4000 euros pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 millions. Et on optimisera les coûts pour réduire le surcoût, parce que notre client ne va jamais accepter de le payer. Personne n'acceptera de payer le surcoût du Brexit, personne, personne.
Donc c'est vous qui allez le payer?
Et ben, à la fin, ça sera de la marge qu'on n'aura pas.
Mais plus que l'argent, c'est du temps que va perdre cette PME à imaginer de nouvelles procédures, à réorganiser les transports, à gérer aussi toute cette paperasse supplémentaire. Mais Patrick Scholz, lui au moins, il anticipe. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Environ 6 entreprises françaises sur 10 qui travaillent avec le Royaume-Uni n'ont pas fait les démarches nécessaires. À Bercy, Thomas Courbe, le directeur général des entreprises, s'inquiète. C'est urgent.
On estime aujourd'hui que 100 000 entreprises françaises environ commercent avec le Royaume-Uni, donc sont concernées par la perspective d'un Brexit sans accord. Potentiellement, tous les secteurs vont être impactés par des éléments comme le rétablissement des formalités douanières, mais certains secteurs vont être plus concernés, soit parce que le chiffre d'affaires des entreprises françaises à l'export dans ce secteur est important, soit parce qu'il y a une forte imbrication des chaînes industrielles entre le Royaume-Uni et la France. On peut citer comme exemple l'aéronautique, l'automobile, la pharmacie ou l'agroalimentaire.
Et avec une première alerte en mars, puis là une seconde avec cette deadline qui arrive fin octobre, comment ça se fait que 2/3 encore des entreprises françaises ne soient pas prêtes selon le chiffre des douanes?
Il est certain que pour une entreprise, en particulier une petite entreprise, les mesures à prendre peuvent paraître importantes, lourdes, coûteuses dans certains cas. Quand il faut par exemple préparer l'agrément d'un produit qui est soumis à des contraintes réglementaires au Royaume-Uni, il est évident que cela peut apparaître au chef d'entreprise comme une charge. Et une partie de ces entreprises, face à l'incertitude liée aux négociations du Brexit, ont sans doute fait le pari d'attendre et de voir si finalement un accord était trouvé. On le comprend bien et aujourd'hui, en même temps, il faut bien dire qu'il est temps de se préparer. La perspective d'un Brexit sans accord qui a longtemps été un scénario qui était plutôt exclu devient un scénario très crédible. On est à quelques semaines de cette sortie potentielle sans accord et c'est peu par rapport à l'ampleur des travaux à mener et des mesures à prendre pour se préparer dans de bonnes conditions.
Alors comment vous les aidez justement, ces entreprises, à dealer avec le Brexit ?
On met d'abord à leur disposition sur le site internet brexit.gouv.fr l'ensemble des informations qui peuvent leur être utiles. L'outil d'autodiagnostic sur le site leur permet très concrètement de préciser les mesures qu'elles doivent prendre. Et ensuite, à travers le site, elles peuvent être mises en relation avec chacun des services de l'État compétents pour les aider à trouver une solution.
L'Union européenne est prête à débloquer justement 780 millions d'euros pour aider les entreprises et les pays en cas de Brexit dur. Est-ce que vous allez aider financièrement les entreprises après ce Brexit ?
Il n'y a pas de décision prise à ce stade puisque l'impact sur les entreprises est encore difficile à estimer, sachant que si c'est nécessaire, un certain nombre d'entreprises pourront faire appel à des dispositifs d'aide qui existent, qui sont des dispositifs de droit commun. Par exemple, les aides de la Banque publique d'investissement pour les garanties à l'export, pour les garanties sur le risque de change, peuvent être mobilisées aujourd'hui et demain en cas de Brexit sans accord.
Mais au contraire, certains ont fait du Brexit un nouveau business. Je suis allée voir Thierry Fournier, un des associés du cabinet EIM, un cabinet de transition. Oui, bonsoir, Caroline Pommès à France Inter. J'ai rendez-vous avec Thierry Fournier.
Oui, au troisième étage, madame.
Merci. En ce moment, vous proposez aux entreprises des CBO, des Chief Brexit Officer, des référents Brexit. À quoi ça sert un CBO ?
Ce sont des patrons qui vont devoir aider l'entreprise à atteindre trois objectifs. Le premier, quelles mesures dois-je mettre en place pour sécuriser mes opérations quotidiennes ? La deuxième question, c'est quelles sont les conséquences à trois ans de ce Brexit sur mes investissements, sur le lancement de mes produits, sur mes implantations industrielles ou autres types recherche et développement. Troisième niveau de réflexion, quelles sont les opportunités que ça m'offre en termes de clientèle accessible, en termes de fournisseurs nouveaux ou avec lesquels je peux refondre et reconcevoir le deal actuel.
À qui ça s'adresse ?
Essentiellement aux, ce qu'on appelle aux ETI, c'est-à-dire aux 1000 entreprises qui font entre 150 millions de chiffre d'affaires et 5 milliards de chiffre d'affaires.
Ça coûte combien d'avoir un conseil pendant plusieurs mois ? Ça dure combien de temps l'émission ?
Ça dure 6 à 12 mois. Alors, bon, j'ai pas non plus un énorme recul pour vous en donner des chiffres, mais disons que l'ordre de grandeur raisonnable, c'est 6 à 12 mois. Ça va dépendre de la complexité de la situation de départ. Et le coût est dans les régions de 30 et 40 000 euros par mois.
C'est quand même un coût pour une entreprise.
Oui, mais il faut voir ce que ça rapporte. Et un Brexit qui est mal préparé, ça peut être des ventes perdues. Des ventes perdues, c'est évidemment de la marge perdue, c'est de la trésorerie qui ne rentre pas. Et un Brexit mal préparé, ça peut être des stocks excessifs préparés de l'autre côté de la frontière, puisque c'est en général ce que préparent les entreprises. Mais après, faut-il le calibrer bien ? Bref, les enjeux financiers sont sans commune mesure avec l'investissement dont je parle.
Pour l'instant, les entreprises qui font appel à vous ont peur quand même de ce Brexit.
Enfin, elles sont... moi, c'est ce que j'observe. Je le qualifie d'agitation immobile. C'est-à-dire qu'elles sont pleines d'interrogations, mais dans l'inaction. Elles savent pas ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il y a des choses très élémentaires qu'on peut commencer à faire. Et dans un esprit, de toute manière, de conquête, un peu dynamique, un peu smart, un peu malin, quoi. Même si ça coûte à tout le monde, l'effet de temps est fondamental.
Eh bien justement, on se demande combien ça va coûter ce Brexit. Curieusement, les économistes arrivent à se projeter dans quelques années, mais pas dans les mois qui arrivent. Au CEPI, Vincent Vicard travaille sur la question.
On a des prévisions à long terme qui nous donnent des ordres de grandeur. Pour le Royaume-Uni, une perte de l'ordre de 3% du PIB par habitant, ce qui représente quand même 2000 livres par ménage et par an. Dans le cas de l'Union européenne, ça serait plutôt de l'ordre de 0,4-0,5%, donc une perte beaucoup moins importante du fait de la moindre exposition aux importations britanniques. Donc ça, c'est la dimension de long terme. À court terme, on a très peu d'éléments. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre notamment du degré de prévision et de préparation des entreprises. Il y a la question aussi de ce qui va se passer sur les politiques qui vont être mises en place. place. Et ça, c'est une des dimensions extrêmement importantes. À court terme, comment les banques centrales vont réagir? À long terme, comment les gouvernements vont réagir? Est-ce qu'ils vont faire des politiques budgétaires pour relancer la demande? Est-ce qu'il va y avoir de la concurrence réglementaire du côté britannique? C'est ce vers quoi on a tendance à aller d'après les échos qu'on a du gouvernement Johnson. Cette concurrence réglementaire va lui permettre éventuellement de développer certains secteurs en abaissant, dans le secteur financier par exemple, les normes de stabilité qui sont imposées à certains acteurs financiers. Et ça, ça peut être extrêmement coûteux parce que ça va aussi contraindre la capacité des gouvernements de l'Union européenne à 27 de mettre en place leurs propres normes à cause de cette concurrence réglementaire qui va viser à attirer un certain nombre d'acteurs financiers, par exemple, mais aussi éventuellement d'autres secteurs. Donc ça pose des vraies questions du côté de l'Union européenne et du côté du Royaume-Uni, parce que une sortie sans accord, ça veut aussi dire que sûrement il n'y aura pas de secteur manufacturier qui va se développer au Royaume-Uni. Et donc ça a des conséquences sur le type de spécialisation de l'économie britannique. On a beaucoup parlé à un moment de Singapour sur Tamise, donc la possibilité pour le Royaume-Uni de devenir un paradis fiscal à l'image de Singapour, spécialisé dans la finance, etc. On imagine assez mal le Royaume-Uni, un grand pays, devenir un pur paradis fiscal comme Singapour, mais on pourra avoir une certaine concurrence réglementaire. Jusqu'à où, c'est vraiment la question qui se pose.
Brexit, branle-bas de combat pour les entreprises, c'était le reportage de Caroline Pommès.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et mon invité est la voix des constructeurs automobiles français. Bonjour Christian Peugeot.
Bonjour.
Vous êtes donc le président du CCFA, le comité de ces constructeurs. Le Brexit, il n'y a pas d'accord le 31 octobre, que se passe-t-il pour l'industrie automobile ?
Écoutez, il se passe une complication de tous les jours pour faire fonctionner un ensemble qui est cohérent. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne fait quand même partie des marchés européens depuis une cinquantaine d'années. Et donc, il y a des échanges dans les deux sens, entre le continent et la Grande-Bretagne, pour fabriquer des voitures. Les voitures fabriquées en Grande-Bretagne prennent 60% de leurs pièces venant d'Europe. Et inversement, les voitures fabriquées en Grande-Bretagne sont pour beaucoup revendus en Europe. Donc il y a des échanges qui fonctionnent.
Mais donc est-ce que c'est une catastrophe s'il n'y a pas d'accord ?
Oui, c'est une catastrophe parce que le mode de fonctionnement en flux tendu, comme on dit, sans problème, je dirais, de blocage aux douanes, va être, indépendamment des douanes elles-mêmes, va être problématique. Donc le fonctionnement de cet ensemble harmonieux va disparaître. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Bien sûr, il y a des tas de scénarios, mais en tout cas, un scénario de Brexit sans accord est une vraie catastrophe, on va dire, administrative.
Et est-ce que c'est une catastrophe financière, Christian Peugeot ?
Écoutez, quand vous recréez des problèmes administratifs dans tous les sens, en général, ça ne rapporte d'argent à personne.
Ça se coûte ? Ça se chiffre, ce coût ?
C'est sûrement très important. J'ai pas de chiffres là à vous donner. Simplement, c'est l'ensemble du dispositif qui ne fonctionnerait plus. Imaginez que entre la Bretagne où il y a des usines, par exemple de PSA, vous mettiez une douane entre la Bretagne et puis l'Île-de-France. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste catastrophique, quoi.
L'actualité, Christian Peugeot, c'est aussi les prévisions sur les usines, leur avenir en Europe de l'Ouest. On entend qu'elles vont fermer un peu partout ces prochaines années, que ça va concerner plus de 20 000 emplois en Europe. Chez nous, la filière automobile, c'est 2 300 000 personnes. Quel est leur avenir ?
Écoutez, j'espère que leur avenir est un avenir durable et brillant. Bon, bien évidemment, il y a des évolutions dans l'industrie qui sont déjà en cours. La productivité de nos salariés en France, par exemple, a beaucoup évolué. C'est-à-dire que on a une capacité de produire de manière beaucoup plus moderne. Et donc, je dirais que l'avenir est quand même pas noir.
Pourtant, on entend que les défis sont majeurs, que l'électrique,
oui,
ça va être un choc.
Les défis sont majeurs. Vous avez raison. Et l'électrique va être un choc, notamment au plan industriel, c'est un fait. Bon, cela étant, nous allons vivre ces évolutions-là comme on vit des évolutions depuis des dizaines d'années. Les choses ne sont pas statiques.
C'est-à-dire que les usines en France, à votre avis, vont rester parce qu'il y aura de la production ?
Je pense que les usines en France vont rester, elles vont évoluer. Par exemple, les usines de moteurs à Trémery, par exemple, fait des
ça
fait
c'est
des
PSA qui faisait
thermiques.
Du diesel,
ouais. Oui, va faire aussi diesel et essence, va aussi faire des moteurs électriques. Bon, on est capable d'intégrer tout cela. Bon, cela étant, il est certain que si le nombre de moteurs électriques évolue de manière forte, ça va faire des évolutions non négligeables. Mais pas seulement pour les fabriques de moteurs, mais également pour le marché lui-même.
Mais on entend que pour fabriquer une voiture électrique, il faut combien de personnel en moins ?
C'est sensiblement moins, même si un moteur électrique coûte cher, mais parce qu'il y a des matériaux à l'intérieur, c'est vrai que c'est moins de personnel. Bon,
Mais combien ?
Bah, c'est en gros un tiers. Hein.
Oui.
Bon, donc c'est sûr que pour les moteurs, ça supprime des emplois. Bon,
et là, on a une prévision chiffrée du nombre d'emplois qui pourraient être supprimés.
Mais je ne veux pas faire du catastrophisme. Les choses se modifient et évoluent. Il y a des choses nouvelles. Les voitures aujourd'hui ont des équipements beaucoup plus importants, ont énormément de prestations finalement pour le consommateur. Et tout ça, c'est de la valeur ajoutée supplémentaire et du travail supplémentaire. Donc tout ne va pas dans le sens négatif.
Donc la prévision, c'est quoi ? C'est plutôt que l'emploi industriel serait stable, diminuerait, augmenterait dans les prochaines années ?
Écoutez, je pense qu'on peut penser à une sorte de stabilité. Pas une progression probablement en nombre de personnes, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un catastrophisme à venir. Bon, la seule chose, c'est qu'effectivement, on sait que les Chinois en face de nous font des voitures électriques,
ouais.
Ils ne sont pas encore là, et qu'il y a quand même le problème de l'origine des batteries, d'où les projets d'usines en Europe de batteries.
En effet, ça c'est Berlin et Paris qui ont, les ministres de l'économie, qui ont annoncé qu'il y aurait des usines de batteries, une usine pilote déjà installée en 2020.
Oui.
Les constructeurs, ça les intéresse des
usines ? Oui, absolument.
Ouais. PSA
et Renault se sont manifestés pour participer à ce schéma qui est effectivement essentiel.
Christian Peugeot, le Dieselgate n'est pas terminé. Hier, on a vu Daimler qui s'est vu ordonner de rappeler des centaines de milliers de voitures supplémentaires. Des Mercedes-Benz soupçonnés d'être équipés d'un logiciel truqueur. La voiture diesel, c'est fini définitivement ?
Non, alors, et le scandale Volkswagen, parce que c'est un scandale Volkswagen, alors semble-t-il, Mercedes aurait participé de près ou de loin, je ne sais pas.
Bah là, on a une actualité majeure.
Oui, une actualité majeure. Il y a évidemment quelque chose qui est très malheureux, parce qu'il ne faut pas confondre le fait qu'une entreprise, éventuellement deux, est un peu profité d'un flou sur un certain nombre d'éléments pour que l'ensemble de la problématique diesel soit perçue comme étant négative. C'est un peu ça qui s'est passé. On a transformé le Volkswagen Gate en Diesel Gate. Le diesel, c'est une technologie ancienne qui évolue. C'est-à-dire qu'un diesel d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le diesel.
Donc il a un avenir, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Il peut avoir un si on se relève de Volkswagen et de Daimler et de Mercedes.
Oui, il a un avenir. Ça n'est pas forcément l'avenir essentiel de l'industrie automobile. C'est vrai que la voiture électrique aujourd'hui est un projet qui va se développer. Mais le diesel qui est également équipe les camions n'est pas forcément à supprimer. Parce qu'aujourd'hui, un diesel est beaucoup plus propre. D'ailleurs, le ministre de l'économie souhaite que le critère 1 soit possible pour les véhicules diesel nouveaux. Et donc, il y a un test qui est en cours.
Christian Peugeot, au 1er janvier, le malus, si on achète une voiture polluante, va augmenter. Est-ce que la différence sera conséquente pour notre porte-monnaie ?
Écoutez, oui, finalement, l'ensemble des gammes de voitures thermiques vont subir des malus progressivement plus importants. Tout cela pour financer le développement des voitures électriques. J'espère d'ailleurs qu'il y aura un budget pour les voitures hybrides rechargeables, qui est une bonne transition aussi pour développer l'électrique.
Ça veut dire que vous voulez quoi ? Qu'une prime soit élargie aux voitures hybrides rechargeables ?
Oui, les hybrides rechargeables est envisagé une prime de 2000 euros. Envisagé. Bon, pour l'instant, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça serait logique par rapport à la démarche qui consiste à vouloir développer le marché des véhicules électriques.
Il y a aussi des incitations pour les constructeurs, avec des normes d'émissions de CO2 qui sont très sévères, les plus sévères au monde.
Oui.
En 2020, c'est la première échéance.
Oui.
Est-ce que les constructeurs français seront au rendez-vous ? On dit que certains n'y seront pas en Europe, en tout cas.
Oui, alors les constructeurs français ont dit qu'ils faisaient tout pour être au niveau demandé. Donc 95 grammes de CO2 pour les rejets de CO2 par voiture. Il faut les croire. Je crois que, évidemment, ça impose de vendre suffisamment de voitures électriques, donc une progression importante. Ça impose aussi de revoir les gammes, y compris de supprimer un certain nombre de voitures qui, aujourd'hui, consomment un peu trop, même si elles sont agréables à conduire. Donc, c'est quand même une évolution assez hard, comme on dit, pour les constructeurs. Mais je pense que les constructeurs français sont plutôt bien placés dans ce schéma.
Donc, incitation hard pour les constructeurs, incitation pour les automobilistes, en fait c'est toujours pareil, oui. C'est la carotte et le bâton. Est-ce que, là il y a un virage très important à prendre, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont il est pris, quoi ? Est-ce que l'incitation est à la hauteur ?
Non, honnêtement non. Nous avons un plan stratégique de filière avec des contreparties de la part des pouvoirs publics qui, en réalité, ne sont pas réellement mises en place aujourd'hui. Les constructeurs, notamment français, vont faire des propositions de gamme très importantes. Et donc, de ce côté-là, les constructeurs jouent jeu. Côté État, c'est très lent, c'est très mou. Il y a une négociation sur les bonus-malus qui est un peu difficile. J'ai dit que l'État était un peu radin avec l'automobile parce que l'automobile rapporte 44 milliards de taxes à l'État qui n'en dépense que 14 pour organiser les infrastructures routières. Bon, donc,
Donc vous voudriez qu'il fasse plus.
En tout cas, il pourrait être un peu conscient que l'automobile rapporte beaucoup.
Bon. Il est moins riche que les constructeurs, l'État.
Écoutez, en tout cas, le droit à la prise, par exemple, pour les copropriétaires, il est tout mou. C'est-à-dire que la loi LOM, de ce côté-là, ne fait pas d'évolution. Or, un Français sur deux vit en copropriété. Si l'on veut que ces gens-là, qui d'ailleurs vivent souvent en ville, aient un droit à la prise réel, il faut qu'il se passe quelque chose.
Ok, on sent qu'il y a du lobbying en coulisses pendant
Tout ça est officiel, Tout ça est officiel.
Christian Peugeot, le président du comité des constructeurs français d'automobiles, merci d'avoir été sur France Inter.
Je vous en prie.
Sandrine, faut-il travailler moins pour avoir, j'adore cette question, pour avoir moins de reproches de son entourage? C'est la question que nous nous sommes posées à la lecture de plusieurs études qui sont sorties ces derniers jours.
Absolument. Le ministère du Travail, la CAF, l'INSEE s'y sont tous mis. Avoir des enfants n'est pas sans conséquence sur le travail et trop travailler a des conséquences sur la vie de famille. Il faut pouvoir supporter le regard du dernier en petite section à qui vous refusez de tenir le stand de Chamboultou à la kermesse de l'école. Il faut pouvoir encaisser les soupirs de Jean-Michel quand on part trop tôt ou qu'on rentre trop tard. Les reproches des proches, c'est dur. Et on aurait pu s'en douter, Alexandra, ce sont les femmes qui sont le plus critiquées pour leur manque de disponibilité. À condition de travail égal, à temps plein, la probabilité de s'attirer des remarques acerbes est 20% plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Évidemment, plus les horaires sont à rallonge et décalés, plus la désapprobation est forte. Les stéréotypes sont tenaces. Un homme qui s'investit à fond dans le travail est toujours mieux perçu par l'entourage. Et les femmes ne sont pas égales entre elles. Les employées de commerce et les ouvrières ont davantage que les cadres de chances de s'attirer des reproches. Peut-être aussi parce que ces dernières ont plus de moyens financiers pour déléguer à d'autres les tâches domestiques. Sur ce point de la participation aux courses, ménages, lessives, l'écart entre les hommes et les femmes se réduit. Bon, ce n'est pas parce que les hommes en font plus, mais parce que les femmes en font moins. L'enquête ne dit pas si ça a un effet sur la consommation de surgelés ou sur les allergies aux acariens.
Si on vous suit, pour s'éviter les reproches, les femmes doivent prendre un temps partiel ?
Ah, pas forcément. Les femmes le font déjà beaucoup. La caisse d'allocation familiale confirme qu'à la naissance d'un enfant, plus de la moitié des femmes qui travaillaient ont réduit ou cessé leur activité pour s'en occuper. Les hommes ne sont que 6% à lever le pied. Les temps partiels pénalisent les femmes, surtout les moins qualifiées. Tout est dans le titre d'une étude de l'INSEE. Les trajectoires professionnelles des femmes les moins bien rémunérées sont les plus affectées par l'arrivée d'un enfant. Dans les 5 ans après avoir accouché, une femme perd 20% de son revenu salarial, alors que la naissance d'un enfant n'a quasiment aucun impact sur les hommes. Mais voilà, travailler à temps plein, ce n'est pas toujours là qu'est le vrai problème. Les études montrent aussi que les salariés qui ont une autonomie dans leur travail, qui peuvent aménager leurs horaires et compter sur l'entraide de leurs collègues, sont plus protéger que les autres contre les reproches de l'entourage. Un bon management, une bonne ambiance au boulot, on les ramène aussi à la maison.
Mais comme c'est vrai, Sandrine Foulon, ma vie au boulot.
On n'arrête pas l'écho avec laposte.fr/pro. La solution des pros pour imprimer ses timbres à tout moment.